Le vélo à assistance électrique est-il un sport valable? Telle est la question.
Et en fait, quand j'ai lu cet article-là, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on se pose la question?
Oui, parce que pour vous, ça n'est pas une.
Ben oui, parce que c'est un... Pour moi, c'est un sport valable.
Oui.
Dans les dernières vacances que j'ai faites, que ce soit aux Îles-de-la-Madeleine ou que ce soit dans le nord, dans les Hautes-Laurentides, j'ai vu de nombreuses personnes qui roulaient sur des vélos à assistance électrique, dont moi, d'ailleurs, j'en ai un aussi. Et dans certains cas, on pouvait se dire que si c'était pas du vélo à assistance électrique, peut-être que ces personnes-là ne seraient pas sur un vélo présentement.
Oui, probablement. Alors, ça serait peut-être une autre question à poser.
Oui, c'est ça. Alors, pour moi, c'est très clair que vélo à assistance électrique ou pas, les gens sont dehors, les gens poussent sur des pédales en général. Ils pourraient être assis sur leur sofa en train d'écouter la télévision. Pour moi, c'est même pas une question. Mais on a regardé cette situation-là de façon assez structurée et c'est ce qui est présenté dans cet article de Catherine Enfield dans la presse du 10 mai dernier. Elle dit « Le vélo à assistance électrique, le VAE, conquiert un nombre croissant d'adeptes, mais à quel point procure-t-il un exercice physique valable? Tour des études avec deux chercheurs en kinésiologie. » Le marché du vélo à assistance électrique est en pleine croissance. On pourrait penser que cette phrase-là s'applique à la situation au Québec ou au Canada, mais non. C'est en Europe où la culture cycliste est beaucoup plus développée. Les Pays-Bas et l'Allemagne ont franchi une étape importante dans la dernière année, selon le magazine anglais Cycling Electric. Le volume de vente des vélos à assistance électrique dépasse désormais celui des vélos traditionnels.
Oh!
Okay.
Quand même.
Oui, dans des pays où vraiment il y a un historique de l'utilisation du vélo, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Au Canada, le vélo à assistance électrique occupe une moins grande part du marché. Les revenus des ventes constituaient la moitié de ceux des vélos ordinaires en 2024. Mais l'industrie prévoit une hausse constante dans les prochaines années. Et d'après ce que je peux voir là, visuellement, c'est vraiment une tendance forte. Quel niveau d'exercice procure le vélo à assistance électrique? C'est la question à laquelle le chercheur Michael Jenkins a voulu répondre dans son projet de maîtrise à l'Ontario Tech University. Il a recruté 21 personnes âgées de 60 ans et plus et capables de pédaler. Et il leur a fait faire des trajets d'environ 10 km avec et sans charge pour simuler le transport de marchandises. M. Jenkins nous dit que nous leur avons demandé d'utiliser l'assistance au niveau qui, selon eux, représentait le mieux leur utilisation. C'est-à-dire pas d'assistance du tout, ou une assistance légère, une assistance modérée, ou une assistance élevée. Je ne sais pas, Hélène, si vous avez déjà roulé avec un vélo à assistance électrique.
Jamais.
Jamais?
J'aimerais ça quand même essayer ça un jour.
Oui. C'est l'équivalent d'avoir du vent dans le dos.
Ah, mais ça, c'est donc agréable.
Oui, c'est ça. Donc, on sent une poussée constante. Dans le dos, en fait, c'est dans le pédalier, pour dire vrai, mais dans le dos, ce qui fait que, puis on peut ajuster l'assistance, là, il y a trois niveaux d'assistance souvent, pour tenir compte, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment un vent de face? Alors, on peut atténuer le vent de face, on peut atténuer une pente en montant, etc. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut ressentir sur un vélo à assistance électrique.
Monique, est-ce que vous avez déjà essayé?
Ah, mais j'en ai un.
Ah, vous en avez un? Okay.
Oui. C'est fort utile, je vous dirais, dans les cantons de l'Est, pour lorsqu'il y a certaines montées, là. J'apprécie d'avoir au moins une petite aide à ce moment-là.
Ah oui, pour les montées, je vous comprends.
Oui.
Oui. Alors, l'équipe du docteur Jenkins a mesuré les fréquences cardiaques des gens qui utilisaient le vélo à assistance électrique. Résultat, la très grande majorité des participants, 19 sur 21, ont atteint une intensité dite modérée sur le vélo à assistance électrique. Qu'est-ce que ça veut dire, une intensité modérée? C'est une intensité où on commence à sentir de l'essoufflement. On est encore on est capable de parler, mais on sent un essoufflement. Les résultats de Michael Jenkins, qui sont publiés en 2023 dans la revue Journal of Transport and Health, sont conformes à la littérature scientifique. Le vélo à assistance électrique permet, en général, d'atteindre une intensité modérée, légèrement moindre que le vélo ordinaire, mais supérieure à la marche, comme en témoignent les résultats dans le tableau qui est fourni dans l'article.
Bon, on aura la réponse à notre question, là. C'est un sport valable.
Oui, tout à fait. Alors, le vélo à assistance électrique peut donc contribuer à atteindre les recommandations en matière d'activité physique, c'est-à-dire 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine. Pour atteindre le niveau modéré, à quel point faut-il utiliser l'assistance? Bien, ça dépend de chacun. Mais si quelqu'un met l'assistance maximale tout au long du parcours, il n'y aura peut-être pas les mêmes résultats. Donc, l'effort fourni dépend du niveau d'assistance choisi. Dans l'étude du docteur Jenkins, de Michael Jenkins, il n'est pas encore docteur, ce que je cherche, certains participants étaient plutôt dans l'intensité vigoureuse, tandis que d'autres tendaient plus vers une intensité légère. Comment savoir si on est dans une intensité modérée? Il y a Mylène Aubertin-Leheudre, qui est professeure de kinésiologie à l'UQAM, qui conseille de se fier à son souffle. À intensité légère, on peut parler sans problème. À intensité modérée, on commence à chercher son souffle. Et à intensité élevée, on ne peut plus discuter. Les gens en forme peuvent limiter le niveau d'assistance en la mettant à la fin de la côte plutôt qu'au début, illustre-t-elle. Cela dit, tout effort est bon. Quand on est dans une activité légère, ça permet de combattre la sédentarité. Et quand on est dans le modéré ou le vigoureux, on devient actif, ce qui est bon pour la santé.
Est-ce que c'est compliqué de changer de vitesse?
Pas du tout. Non, pas du tout. C'était au bout du doigt.
Parfait.
C'est littéralement au bout du doigt. C'est vrai, on pèse sur un bouton. Le grand avantage du vélo à assistance électrique, c'est qu'on peut justement ajuster l'assistance à ses besoins du moment. Si on veut s'entraîner, on en met peu ou pas. Et si on veut éviter d'arriver en âge au travail, on en met davantage. Et c'est toujours intéressant de pouvoir se dire « j'ai une béquille au cas où », ajoute Mylène Aubertin-Leheudre. Cette béquille est suffisante, selon elle, pour convaincre les gens de prendre leur vélo à assistance électrique.
On entend sonner.
Excusez-moi, oui. C'est moi, je ne comprends pas. C'est fermé.
OK, merci.
Donc, cette béquille, le fait d'avoir un vélo à assistance électrique, peut convaincre des gens de prendre leur vélo plutôt que de rester chez eux ou de prendre l'automobile. Le vélo à assistance électrique permet également de faire des sorties de vélo avec des gens plus en forme. Puis c'est là qui est un peu drôle, Mme Aubertin-Leheudre, qui enseigne la kinésiologie, elle dit « Avec mon vélo à assistance électrique, je suis enfin capable de suivre mon conjoint lors de ses sorties en Estrie, justement. »
Ah, là où vit Monique.
Oui, là où il y a des côtes.
Il n'y en a pas juste en Estrie, par exemple.
Non. Mais particulièrement en Estrie. Les études ont aussi montré ceci. Les propriétaires de vélos à assistance électrique en font plus souvent et sur de plus longues distances. Ce qu'ont montré des sondages, mais aussi de petites études expérimentales. Dans un essai clinique, des chercheurs ont remis à des adultes soit un vélo ordinaire, soit un vélo à assistance électrique. Ils ont suivi leur déplacement pendant 3 mois. Les participants qui avaient des vélos à assistance électrique parcouraient plus de kilomètres par semaine, La médiane, c'était de 20 km contre 12 km pour ceux qui avaient un vélo ordinaire. Et ils roulaient plus longtemps. Ils roulaient 63 minutes contre 51 minutes. Donc, 12 minutes de différence quand même. Qui plus est, le vélo à assistance électrique diminuait davantage le recours à l'automobile que le vélo ordinaire. Alors, ça, c'était l'article dans la presse, dans la section santé et bien-être, l'article s'intitule « Le vélo à assistance électrique est-il un sport valable? » Et ma réponse, c'est « Tout sport est valable. »
Tout à fait. Et c'est un texte de Catherine Enfield.
Oui.
On poursuit avec vous, Yvan. Vous vouliez nous parler du gala Femmes d'influence qui a honoré plusieurs personnalités, plusieurs femmes, j'imagine.
Qui va honorer, parce que c'est le 28
mai. Ah, c'est pas derrière nous, là. OK, ça s'en
non,
vient.
Non, c'est encore devant. Donc, 20 ans, 20 femmes sur une nouvelle équipe d'étoiles. Voilà le mandat que s'est donné l'organisme Égal Action pour marquer le coup du 20e anniversaire de son gala Femmes d'influence qui aura lieu le 28 mai prochain. C'est un article de Jean-François Théotonio dans la presse du 6 mai. La liste complète des personnalités choisies par Égal Action a été dévoilée mardi de la semaine dernière. Du lot, des gens de tous les horizons ont été sélectionnés. On y retrouve par exemple Joanie Charbonneau, qui est présidente de l'équipe L'Alliance de Montréal, qui est une équipe de basketball, de Kimberly Yassin, qui est une ancienne sprinteuse d'élite et conférencière, Isabelle Charret, qui est triple médaillée olympique et qui est aujourd'hui ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Florence Agathe Dubé-Moreau, qui est autrice, chroniqueuse et coprésidente de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Annie Larouche, qui est présidente des Roses de Montréal, pour ne nommer que celle-là. Il y a la liste des noms, puis Mme Larouche dit, Annie Larouche, elle dit, j'ai vu les noms, puis c'est tellement un bel honneur. Tu sais, je ne fais pas mon travail en me disant que ça va me rapporter des honneurs et un prix, mais de voir que le travail est reconnu, ça me touche beaucoup. Je me trouve privilégié de me retrouver dans une liste de femmes aussi exceptionnelles.
Dans la liste, il y a Marie-Josée Turcotte, communicatrice, ex-journaliste et chef d'antenne à Radio-Canada. Il faut souligner, c'est une de nos collègues, ex-collègues.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'elle a déjà été athlète avant de devenir journaliste sportive. Mais,
ça, je ne sais pas.
C'est une information que j'avais déjà eue à un moment donné. Je pense qu'elle joue au basketball, quelque chose.
Ça sonne ce matin.
L'édition 2025 du gala Femmes d'influence aura lieu dans le contexte où des pas de géants ont été faits dans les dernières années pour le sport féminin professionnel au Québec et au pays. La victoire de Montréal et deux autres équipes canadiennes de hockey féminin ont vu le jour dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. Puis il y en a une quatrième équipe qui est à venir à Vancouver l'année prochaine, tandis qu'il y a une Ligue de soccer féminin qui a été mise sur pied pour et par des Canadiennes, dont fait partie les Roses de Montréal. Ce sont des groupes comme Égal Action qui viennent faire changer les choses, croit Mme Larouche, ne serait-ce que par des réflexions, par la sensibilisation de souligner la part des femmes. Et il y en a tellement d'autres. Cette liste-là, elle aurait pu être tellement longue parce qu'il y en a beaucoup des femmes extraordinaires. La sélection des 20 personnalités s'est faite en fonction de leur action concrète, de leur prise de position ou de leur rôle de modèle, indique Égal Action. Dans ma vie en général, je me dis toujours que si je m'engage dans quelque chose, je le fais jusqu'au bout et je le fais bien, dit Mme Larouche. Donc, si cette façon de faire devient une inspiration, alors tant mieux. Le gala Femmes d'influence aura lieu à la Grande Bibliothèque de Montréal le 28 mai prochain. Et je pense que j'ai un peu de temps, donc on va passer rapidement à travers la liste.
Au complet, oui, bonne idée.
Il y en a que j'ai nommé, là, Annie Laroche, qui est présidente des Roses de Montréal. Sandrine Brown, elle est deux fois olympienne en ski de fond et puis conseillère au programme Équité en sport. Cindy Ouellet, c'est une athlète paralympique en basket, en fauteuil roulant et en ski paranordique. Et elle est doctorante en neurosciences. Juste faire une de ces trois affaires-là, moi, ma vie serait faite. Elle a fait les trois. Claudine Labelle est fondatrice de Filles Actives, dont j'ai parlé la semaine dernière, leader du sport au féminin. Hélène Lauzon, elle est directrice générale des Loisirs Laurentides. Florence Agathe-Dubé-Moreau, j'en ai parlé tantôt. Guylaine Bernier, elle est pionnière de l'aviron et figure d'exception en arbitrage sportif. Guylaine Demers, elle est professeure titulaire à l'Université Laval, directrice du Lab Profem, donc un laboratoire pour voir comment les femmes peuvent s'impliquer davantage dans le sport, et etc.
C'est Isabelle Charrette, Jennifer Mathurin, Jenny Lee Vachon, Joannie Charbonneau, Kimberly Hyacinthe, Lily Trang Yuong, Marie-Josée Turcotte, on en a parlé, Richie Manga Loison, Sarah Myriam Mazouz, Suzanne Laberge, Sylvie Béliveau, Nadia Belzil, Belzi. On aura l'occasion d'y revenir mercredi dans deux semaines. Merci, Yvan.